Hors-champ, le podcast cinéma de l'EJT.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors-champ dédié cette semaine aux satires sociales. Alors avant qu'Anaïs nous explique concrètement ce qu'on entend par satire sociale, petit tour d'horizon sur ce qui nous attend. Cette semaine, c'est Martin qui nous fera part de sa critique de Dream Scénario, puis ce sera au tour d'Angela de nous partager son coup de cœur pour Sans Filtre, Palme d'or du Festival de Cannes de 2022. Océane nous dira ensuite quelle est sa recommandation de la semaine. Il y aura aussi Audrey qui reviendra sur une scène mythique du film Billy Elliot, et Apolline nous fera son top 3 des satires sociales préférées. Et pour la fin, Lucas reviendra sur les polémiques qu'a suscité Orange Mécanique après sa sortie en 1971. Mais avant de commencer ce programme bien chargé, Anaïs, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une satire sociale ?
Alors c'est vrai que quand on a choisi le thème de l'émission, on n'était pas tous d'accord sur les films typiques d'une satire sociale. On avait d'ailleurs un peu de mal à en trouver, à vraiment comprendre ce que c'était. Donc en fait, une satire, c'est critiquer en se moquant. À travers ça, on va faire adhérer le spectateur et le faire réagir et donc créer une complicité et un lien. Et pour être un peu plus précis, une satire sociale, c'est vraiment une critique de la société par le biais de moqueries et de caricatures. Et si l'art cherche à dénoncer et à faire réagir, le cinéma fait également des satires sociales. Vous en connaissez forcément, et alors pour que ce soit un peu plus clair pour vous comme pour moi, j'ai choisi de vous faire une traversée à travers le temps et les différents thèmes abordés.
Eh bien, on te suit.
Alors, vous le reconnaissez grâce à son chapeau melon et sa canne, Chaplin est l'un des plus grands réalisateurs de films satiriques. Mythique aujourd'hui, c'est Le Dictateur ou encore Les Temps modernes qui ont connu la censure. On sent que le côté moqueur n'a pas vraiment fait l'unanimité. Et en fait, à travers un humour populaire, Chaplin dénonce sa dictature nazie comme le travail à la chaîne. Et s'ils ont déplu ou choqué, aujourd'hui ces deux films satiriques sont une vraie référence.
Une référence aussi dans nos cours d'histoire de l'art.
C'est sûr. Et alors, on avance un petit peu dans le temps et je vais vous parler de mon film préféré, Le Truman Show de Peter Weir. Alors il est considéré comme un film de science-fiction satirique et en fait, aujourd'hui plus que jamais, Le Truman Show fait sens. Dans le long métrage, on suit un homme qui est filmé en continu sans le savoir. Une sorte de télé-réalité à son insu, jusqu'au jour où il va se rendre compte de la supercherie. Le Truman Show cherche à dénoncer le voyeurisme à travers l'humour de Jim Carrey, mais il a un esthétique soigné, de quoi nous envoûter. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux ou encore la télé-réalité, on a quand même tendance à suivre des personnes en continu. C'est un peu le Truman Show des temps modernes, si on fait lien avec Chaplin.
Et des films qui s'attaquent à notre société actuelle ?
Il y en a, on n'est toujours pas dans un monde parfait, il reste des choses à dénoncer. Sur Netflix, vous pouvez retrouver Don't Look Up, d'Eni Cosmic, d'Adam McKay. Dans ce film, il y a plein de références satiriques et on peut un peu tous s'y retrouver. Pour le scénario, il y a deux chercheurs qui annoncent l'arrivée d'une météorite qui causera la fin du monde. Dans ce film apocalyptique, tout y passe. Le déni face au changement climatique, l'inaction du gouvernement, les fake news ou encore l'omniprésence des réseaux sociaux. Tant de thèmes actuels qui sont caricaturés avec un casting de renom. Au programme, Jennifer Lawrence, DiCaprio, Meryl Streep et Timothée Chalamet. Et puis il y a une satire qui a tout de même reçu 4 Oscars, c'est Parasite. Et s'il a fait tant de bruit et qu'elle était autant récompensée, c'est d'abord pour la réalisation et le suspense dans lequel on plonge direct. Mais aussi la critique sociale qu'il élabore. Ici on s'attaque directement à la société coréenne, divisée entre les classes populaires et supérieures. On suit une famille coréenne très pauvre qui envie le monde des riches, et finit par l'infiltrer auprès d'une famille. Peut-être un peu trop. Mais je vais en rester là et je vais pas spoiler les retardataires, Océane reviendra dessus.
Et apparemment un film t'a surpris.
Alors oui, celui qui m'a surprise c'est Barbie de Greta Gerwig. Pour ce film, je suis allée voir en plein été avec ma cousine. On s'est dit qu'on allait replonger dans nos souvenirs d'enfance. Et en fait, je m'attendais pas du tout à tomber sur une satire contre le patriarcat. Dans le film, les Barbie, elles sont persuadées qu'elles ont inspiré toutes les femmes. Grâce à elles, une femme peut être astronaute, scientifique, maîtresse et même juge à la Cour suprême. Mais en fait, Barbie découvre un jour le vrai monde. Elle se rend compte qu'il est dirigé par des hommes, que les femmes n'ont pas la place qu'elles pensaient. En fait, elle passe clairement en second plan, contrairement à ce qu'il y a dans Barbie Land. Même si paraît léger, ce film dénonce aussi bien qu'il nous fait rire. Il y a un vrai message féministe. En fait, j'ai bien aimé parce qu'on a l'aspect comédie, et en même temps, ça nous fait cogiter avec des réflexions qui nous font sourire.
Et on passe à Martin qui a vu un film un peu spécial. Tu vas nous parler de Dream Scénario.
Oui, j'ai eu le plaisir de découvrir l'univers particulier de Christopher Borgli. En 2023, le jeune réalisateur norvégien de 39 ans a sorti ses deux premiers films notables. Sick of Myself d'abord, qui raconte l'histoire d'une fille en manque d'attention qui s'invente une maladie grave, un mensonge qui va progressivement se retourner contre elle. Puis Dream Scénario, dans lequel un prof d'université, Paul Matthews, va lui aussi passer de la lumière au cauchemar. Le personnage joué par Nicolas Cage est un nobody quinquagénaire, simple père de famille, prof de biologie à l'université. Un jour, il se retrouve dans les rêves de millions de personnes. Au début, le phénomène fait sourire. Les gens qu'il croise sont troublés par la vision de Paul dans la vraie vie.
Mais oui, il s'arrête pour lui demander « on se connaît, non ?»
Oui, tout à fait. Le protagoniste est d'abord perturbé, mais il commence à apprécier. Il devient vite un personnage médiatique. Il est l'homme qui s'immisce mystérieusement dans les rêves des autres. Il fait la une des journaux télévisés. Paul Matthews tente d'en profiter pour se faire publier, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire dans sa carrière universitaire. Mais petit à petit, les songes des gens changent de forme. Il devient notamment le fantasme sexuel d'une jeune femme. Celle-ci travaille dans une maison d'édition, justement, qui tente de capitaliser sur la notoriété de Paul. Elle le ramène dans son appartement, où le mari, tant exemplaire par le passé, manque de tromper sa femme. Là, le film prend un tournant. Paul apparaît en cauchemar dans le sommeil de millions de personnes. Il est alors ostracisé. Il devient un paria, car sa vision devient insupportable pour ses étudiants, et même pour sa famille. Sans être responsable direct de la situation, il doit se faire oublier pour arrêter de traumatiser son entourage. Il est cancelled, écarté par le doyen de l'université et finit seul, divorcé. Il parvient finalement à se faire publier. Sauf que le livre ne parle pas de biologie, mais de lui, en l'occurrence. « Comment je suis devenu un monstre ?» C'est sur cette phrase cynique que se conclut le film.
Mais tout a l'air absurde. En quoi c'est une satire sociale ?
Alors ce long métrage de Borgli est un ovni, mais pas dénué de critiques sur la société. Par exemple, la voracité des entreprises voulant surfer sur la popularité de Paul est largement dénoncée. L'arbitraire de la cancel culture aussi en prend pour son grade. Cette idéologie née dans les universités américaines a des vertus, mais aussi des dérives quand elle se transforme en police de pensée sans fondement. Le film tourne en ridicule les opportunistes qui courent après la gloire. Paul Matthews est un prof austère qui ne doit son succès qu'au hasard et à l'irrationnel, et en cherchant à profiter de cette situation qu'il ne maîtrise pas, il subit un retour de karma négatif. Il commence à nourrir une confiance de lui-même aveugle au point d'oublier qui il est.
Et maintenant, c'est l'heure du coup de cœur. Angela, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de Sans filtre, le film de Ruben Östlund qui a remporté la Palme d'Or en 2022. C'est une satire qui mêle des questions de lutte de classe et d'inégalité de genre. On rigole, on est dégoûté, on est offusqué. Je me rappelle être sortie de la salle avec beaucoup d'émotions différentes et aussi, je dois dire, un peu d'incompréhension.
Et Sans filtre, c'est le titre en français. C'est quoi le titre original ?
C'est, attention pour mon accent magnifique, Triangle of Sadness. C'est une expression qui est utilisée par les chirurgiens esthétiques qui désigne une zone entre les yeux où l'on peut lisser les rides avec du Botox. Ça fait référence au fait que le film soit divisé en trois parties et c'est aussi une manière plus générale de faire référence au monde du mannequinat et de l'apparence qui sont des sujets beaucoup abordés dans le film, on va le voir.
Donc beaucoup de thèmes contemporains sont abordés dans le film et nos modes de vie sont questionnés.
Oui, tout à fait, à commencer par le thème de l'égalité homme-femme. Pour la première scène du film, elle s'ouvre sur une dispute d'un couple qui est au restaurant. L'homme reproche en fait à sa petite amie de se laisser inviter tout le temps et de jamais sortir sa carte bleue pour payer. C'est une scène qui est forte, un peu brute de décoffrage et qui plonge direct le spectateur dans l'ambiance satirique du film. Après, il y a d'autres scènes qui sont un peu plus légères mais qui dénoncent tout autant. Il y a une scène par exemple où la mannequin demande à son copain de la prendre en photo avec un gros plat de pâtes et puis juste après, elle l'échange contre une salade. Là, c'est l'hypocrisie du métier de l'influence sur les réseaux sociaux qui est montrée.
Et c'est un film qui dénonce aussi et surtout les inégalités sociales.
Oui, complètement, notamment dans la deuxième partie du film qui se déroule sur un yacht. Chaque poste du bateau représente une catégorie sociale. Plus on travaille sur le bas du bateau, plus on est bas sur l'échelle sociale.
Mais au milieu du film, cette échelle sociale s'inverse.
Oui, au moment du naufrage du yacht, il va avoir un renversement. Le point de bascule apparaît au moment de la fameuse scène du vomi. Alors, trigger warning pour les hémétophobes qui nous écoutent, faut avoir le cœur bien accroché, parce que pendant 15 minutes, vomissement et déjection de fluide corporel, si vous voyez ce que je veux dire, apparaissent à l'écran. Donc, outre le fait que cette séquence soit absolument dégoûtante, ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
Tu m'étonnes.
Et l'échelle sociale, en fait, s'inverse ensuite totalement quand ils échouent sur une île déserte. Et là, c'est la femme de chambre du bateau qui est en position de force et c'est elle qui va donner le droit de manger ou non.
C'est un film qui rentre donc totalement dans notre thème. Mais pourquoi tu nous le conseilles ?
Je vous le conseille car on en ressort vraiment bluffé. Ça fait partie pour moi des films originaux qui sortent du lot et puis on rigole aussi beaucoup. Après, comme je le disais au début, c'est un film plutôt intello, avec beaucoup de références et qui laisse pas mal de place aux multiples interprétations, donc on peut aussi rester sur sa fin.
Océane, cette semaine, tu nous recommandes un film. Et petit indice, Anaïs en a parlé tout à l'heure dans sa chronique.
Est-ce que vous vous souvenez de la Palme d'Or en 2019 ? Et si je vous dis Memories of Murder, The Host ou Okja, un film qui se déroule dans le sud de la Corée, ça ne vous dit rien ? Oui, je vous parle de Parasite, réalisé par le Coréen Bong Joon-ho. Pour moi, ce film, c'est la métaphore d'un pays où les pauvres vivent comme des rats, et quand ils remontent à la surface, il vaut mieux se méfier. Sans trop vous spoiler, l'histoire suit la famille Ki-taek, au chômage, qui vit de petites combines. Le fils va falsifier son CV et s'offrir une lettre de recommandation pour donner des cours à une enfant d'une famille très aisée. De son côté, sa sœur va se faire passer pour une prof particulière d'art, et petit à petit, les pauvres se font une place chez les riches. Mais plus on avance dans le film, plus la situation dégénère. originaire.
Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette satire ?
Le début du film ressemble à une comédie sociale, mais il camoufle les bifurcations à venir. Au fur et à mesure du récit, le film sort complètement de la comédie et devient sérieux. Le basculement inattendu de Parasite nous emmène dans une autre dimension et démultiplie la puissance du propos de Bong Joon-ho qui montre la dichotomie des classes sociales. Le scénario est inventif et laisse place à l'émotion après le rire sans pour autant parasiter le déroulé du film. Bong Joon-ho, véritable cinéaste politique, se montre attentif à la matérialité des inégalités sociales qui sont non seulement géographiques mais aussi organiques. Le mépris de classe passe surtout par les gestes qui amèneront à l'explosion ultime d'une violence sociale qui finira par prendre une forme physique.
Un film réussi donc selon toi ?
C'est sans doute l'un de mes films préférés, mon top 10. La composition du film est parfaite, autant dans le choix du lieu extrêmement mécanique et froid. Il y a beaucoup de couches dans ce film, notamment avec de nombreux escaliers qui montent et qui descendent. Le mouvement de la caméra nous amène dans les recoins et se faufile dans les couloirs de la maison familiale qui revêt une architecture étonnante. Le scénario est bourré d'inspiration et de référence, et sans vous en dire plus, pour moi cette œuvre est une véritable satire sociale qui mérite d'être vue.
La scène mythique.
Audrey, cette semaine, tu nous parles d'une scène mythique.
Absolument, Margot. Il s'agit du célèbre film de Stephen Daldry, Billy Elliot. Mais juste avant de commencer, je vous fais un petit résumé pour ceux qui n'auraient jamais vu le film. Billy Elliot, c'est l'histoire d'un jeune garçon passionné de danse classique dans les années 80 en Angleterre. À cette époque, la crise minière est en cours et de nombreuses grèves ont lieu. Mais Billy va imposer sa passion pour la danse à sa famille et lutter contre les stéréotypes de genre.
J'ai vu ce film il y a très longtemps et je me souviens que j'avais adoré. Alors de quelle scène mythique on parle ?
La scène mythique est une scène de rage. Le jeune garçon vient de se disputer, il se sent différent et surtout incompris par sa famille. Il voit toutes ses chances de danser s'envoler. Dans cette chorégraphie, le jeune Billy est comme possédé par la musique. La colère qu'il a en lui se traduit par la danse et donne lieu à une scène mémorable. Il représente parfaitement l'expression d'être habité par la musique, mais aussi par la danse, par sa passion finalement. La dimension intéressante de ce film est aussi la lutte des stéréotypes de genre. Moqué par ses camarades et rejeté par sa famille, Billy se cache pour danser. Dans un monde où il n'est pas envisageable pour un homme d'avoir cette activité, d'autant plus venant d'un milieu ouvrier.
Et on me dit dans l'oreillette que tu as des anecdotes sur ce film.
Eh oui, j'ai une petite anecdote. Lors de la sortie du film en 2000, l'un des premiers fans était Elton John. 4 ans après la sortie du film, Elton John signe la bande originale de la comédie musicale Billy Elliot, qui est encore aujourd'hui jouée à Broadway et au Victoria Palace de Londres. Et notre Spider-Man préféré, Tom Holland, a joué dans cette comédie musicale étant plus jeune.
Parfois, qui dit satire sociale dit censure, et certains des plus grands réalisateurs n'ont pas été épargnés, comme Stanley Kubrick avec son film Orange Mécanique. Lucas, tu nous en dis plus.
Et oui, ce film a notamment donné lieu à une polémique qui a pris des proportions assez surprenantes. L'intrigue se déroule dans une ville fictive, un jeune homme nommé Alex Delarge et ses amis sont des adeptes de l'ultra-violence. Toutes les nuits, ils sortent et se battent contre des bandes rivales ou alors terrorisent les habitants. Et un soir, la situation dégénère, Alex se fait arrêter par la police et il est condamné à 14 ans de prison. Au bout de 2 ans d'incarcération, il se porte volontaire pour un programme mis au point par des scientifiques et soutenu par l'État, visant à permettre aux détenus, même les plus dangereux, de pouvoir être rapidement réinsérés au sein de la société grâce à des méthodes révolutionnaires. Son traitement commence et aboutit par sa libération 2 semaines plus tard. Une fois libre, il se rend compte que beaucoup de choses ont changé dans sa vie depuis son incarcération et il ne sait pas encore qu'une longue descente aux enfers l'attend. Le film est l'adaptation du roman d'Anthony Burgess, L'Orange Mécanique, publié en 1962. L'auteur qui a écrit le roman s'inspire d'un événement tragique survenu au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, 4 soldats américains déserteurs ont violé sa femme. Kubrick a lu le roman et a immédiatement été enthousiaste à l'idée de faire une adaptation cinématographique. Le tournage a débuté à Londres en 1970 jusqu'en avril 71, puis est sorti à la fin de cette même année.
Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu.
Non, le film a fait polémique en raison de l'ultra-violence affichée dans certaines scènes. Il y a eu une incompréhension de la part de beaucoup de spectateurs, mais aussi de la part de nombreux critiques et journalistes. Et finalement, Stanley Kubrick, pensant que la polémique avait pris des proportions beaucoup trop importantes, a décidé de retirer Orange Mécanique des salles en Angleterre. Le film a aussi été interdit dans certains pays dictatoriaux comme l'Espagne, qui était dirigée à l'époque par Franco. Et pour la petite anecdote, de nombreux Espagnols qui habitaient au nord du pays, donc proche de la frontière avec la France, avaient l'habitude de prendre le bus tous les week-ends pour aller en France et voir les films qui étaient censurés en Espagne. Finalement, Orange Mécanique a fait son retour sur les écrans anglais en 2000, presque 30 ans après sa sortie initiale et 1 an après le décès de Kubrick en 1999. Et aujourd'hui, Orange Mécanique est considéré comme l'un de ses meilleurs films, c'est un classique.
Préparez votre agenda,
c'est les sorties de la semaine. Apolline, pour l'agenda, tu nous emmènes nous promener.
Eh oui, Margot, tu me connais, moi j'adore trouver des petites activités à faire de ci, de là, et j'ai encore trouvé de quoi organiser une sortie sympa en famille. Alors l'événement s'appelle Vidéomo, mais c'est les rendez-vous des petits cinéphiles qui pourront découvrir des courts-métrages sur la thématique de la musique. C'est de 14h30 à 16h et ensuite le goûter est inclus. Tout ça pour la modique somme de 3 euros. Chaque film est suivi d'une discussion avec les enfants et ça se passe à l'espace JOB à Toulouse, n'hésitez pas.
Et tu nous proposes même de rendre visite à une star.
Et oui, et cette star, c'est le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. Avec ses récentes nominations aux Oscars, il revient sur le devant de la scène dans certains cinémas. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la rencontrer, vous pourrez vous rendre par exemple au cinéma ABC, c'est un cinéma indépendant de Toulouse, le dimanche 28 janvier à 20h pour découvrir le petit trésor français des Oscars. Je sais qu'avec Margot, on y va.
C'est prévu. Et pour finir, tu nous as concocté un top 3 de satires à voir enroulés dans la couette ce week-end. Et en troisième position, on a The Shape of Water, la forme de l'eau.
Oui, vous pouvez le visionner sur Disney+, c'est un film de Guillermo del Toro sorti en 2017. Il raconte l'histoire d'une femme muette qui vit une histoire d'amour avec un humanoïde amphibien retenu captif durant la guerre froide. C'est un film légèrement dérangeant mais qui parle du rapport à l'autre, de passion, de liberté, il est très beau.
Et en deuxième position, Requiem for a Dream.
Il s'agit d'un film américain qui interroge le rapport à la drogue dans notre société. Il met en scène plusieurs personnages qui ont chacun un rapport différent à une drogue, un jeune consommateur d'héroïne, une mère accro aux pilules amaigrissantes, une sœur qui devient dépendante des amphétamines. Les sujets abordés sont nombreux, c'est un film assez dur mais très intéressant que je vous conseille chaudement.
Et pour la première position, tu nous as mis l'indétrônable Cercle des poètes disparus.
Si vous ne connaissez pas ce film, marchez, courez, volez le voir sur Disney+, ou Canal+. Ce petit chef-d'œuvre de Peter Weir raconte l'histoire d'un jeune garçon envoyé dans une académie prestigieuse. Il y rencontre un professeur de littérature passionnant qui l'encourage à refuser l'ordre établi et lui fait découvrir la poésie et le théâtre. Ce film, c'est scène culte sur scène culte. Ça donne envie de se battre pour ses choix, sa liberté, c'est un film qui ne laisse que deux options. Soit vous le terminez en pleurant, soit vous prenez rendez-vous chez le médecin pour lui demander où est passé votre cœur.
Et on en veut encore!
Bon allez, dernière recommandation, je vous propose le film La Plateforme sur Netflix. C'est encore un film assez dérangeant, c'est sur les classes sociales. Je vous propose simplement de me faire confiance. Je vous raconte pas de quoi ça parle, et vous apprécierez d'autant plus l'expérience.
Eh bien merci à Pauline, et merci à Anaïs, Martin, Angela, Lucas, Océane, Audrey pour leur chronique. Et on remercie aussi Océane qui, en plus de nous avoir partagé sa recommandation, était à la régie ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode sur les satires sociales vous aura plu. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode d'Hors Champ.